Bon, bonjour, mes frères, mes sœurs. On va parler sur l'église locale. Et je sais que nous avons tous une idée de ce qu'est l'église locale. Mais c'est bon de rafraîchir. On va voir un petit peu le contexte historique, comment l'église était conçue dans la tête de Dieu, même avant que l'église soit fondée par le Saint-Esprit. On va voir qu'il y a des fêtes. Ben, en fait, comme dit la parole, comme le Seigneur Jésus, comme plusieurs personnes chrétiennes ont dit, l'Ancien Testament, toutes les prophéties, les fêtes du peuple d'Israël sont en vérité c'est juste une image des vraies choses qui étaient pour venir dans le futur. Comme l'agneau de la Pâque. C'est pointé à quoi? À qui? À Jésus-Christ. Hein? Alors, toutes les choses préfigurent, sont images des choses que le Seigneur allait révéler plus tard, et que la Bible même l'appelle mystère, le mystère de l'Église, qui a été révélé dans le Nouveau Testament, si vous voulez. Alors, il y a certains cours, je vais juste prendre une couple de minutes pour vous dire, parce que ce sont des cours vraiment très intéressants. Ce n'est pas juste moi qui va donner les cours, mon frère Célestin, il va donner des cours aussi, et Jonathan Guichard aussi. Nous allons être trois personnes à partager avec vous les enseignements de la parole, qu'est-ce que le Seigneur nous donne pour partager avec vous. Mais je voudrais prier d'abord. On va prier que le Seigneur puisse nous assister et qu'il puisse contrôler nos têtes, nos pensées, que sa doctrine reste pure telle qu'il veut que soit exposé. Et oui, il y a les cours. Ben aujourd'hui, on voit l'assemblée locale des croyants. Et puis, entre parenthèses, j'ai mis baptisé, parce que je crois que l'Église, nous allons voir plus tard, il y a l'assemblée locale des croyants baptisés, et la mission, que c'est Jonathan Guichard qui donnera ce cours-là. Le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit, que c'est mon frère Célestin qui va partager. Après, c'est moi qui pourra partager avec vous sur les cultes de l'Église, quelle sorte de culte que l'Église pratique. L'autonomie, encore Jonathan, gouvernement, c'est-à-dire la direction, organisation de l'Église, c'est mon frère Célestin. Le baptême et le repas du Seigneur, c'est moi encore. Après, c'est être membre d'une église locale, pourquoi est-ce qu'on devient membre, comment est-ce qu'on devient membre, et pourquoi certaines particularités, c'est encore Jonathan qui le fera, les services et adoration, la liturgie de l'église, c'est Célestin, peut-être que mon frère va partager la liturgie de l'église pendant l'histoire de l'église, comment est-ce que ça s'est développé, comment est-ce que parfois l'église a dégénéré dans la liturgie. Des changements dans l'histoire, la multi-ethnique et multi-âge. C'est moi qui aura le privilège de partager. Finalement, prédication et enseignement, c'est Jonathan, et sanctification et discipline. C'est mon frère Célestin qui pourra partager cette cours-là. Alors, je pense que quand on parle de discipline, c'est pas comme la musique à nos oreilles, mais c'est nécessaire aussi. C'est nécessaire, et nous le voyons dans l'enseignement biblique, la discipline dans l'Église. Alors nous allons aujourd'hui toucher l'assemblée locale des croyants baptisés. Je veux qu'on ouvre nos Bibles dans Actes, le livre des Actes. Et que nous allons lire Actes 2, 36 au 47. Actes 2, 36, 47. Et la parole dit comme ça. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour vous tous qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, l'enseignement de ce passage-là, c'est que vous devez partager vos biens avec moi. Non, c'est pas vrai, mes frères. C'est pas vrai. Mais si vous voulez, je l'accepte humblement. Et si vous avez fait un petit peu d'attention, dans ce passage-là sont presque tous les aspects qu'on va développer pendant la saison de cours que nous allons voir par rapport à l'Église des croyants. Alors, il y a une introduction que nous devons penser au grand privilège d'être membre de l'Église de Jésus-Christ et membre de cette Église de Rosemont. Moi, je me sens vraiment, parfois je le dis comme une sorte de blague, mais je me sens vraiment privilégié d'appartenir à cette Église. Vous savez, quand on pense tout ce qui se passe dans le monde par rapport aux Églises, des assemblées qui vont dévier la doctrine, et tellement d'Églises, dans l'ambiance latino-américaine, hispanophone, moi, je sais des églises qui, juste par la musique, pour plaire un groupe de l'église, l'église se dévie de la doctrine. Parce que les églises, parfois, s'en vont vers certaines choses extérieures et oublient le plus important, que c'est la doctrine, l'aspect spirituel. L'aliment que tout croyant devrait avoir solide, malgré que Paul dit que parmi nous, parfois, il y a des croyants qui, devant être adultes, mûrs dans la foi, ils y ont resté enfants. Ils devraient manger la chair, la viande, et au lieu de manger la viande, ils ont besoin encore d'un, comment on appelle, un biberon avec du lait. Et malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Justement, hier, on pensait avec ma femme d'un couple de chrétiens. Je ne veux pas dire la nationalité, mais ce sont des latino-américains qui, on les voit, et ils ont déjà visité cette église. Je sais que Joël et Dominique les connaissent. Mais ça fait longtemps qu'ils sont venus à l'église ici. Mais ce sont des personnes âgées, déjà. Mais vous parlez avec eux, juste comme ça, et vous pensez que c'est un couple mieux dans la foi, la façon dont ils parlent et tout. Mais jusqu'à date, depuis ce que je sais, ils n'ont pas une église locale. Ils n'ont pas encore devenu membre d'une église. Ils viennent dans une église pendant un certain temps. Après, ils partent, ils s'en vont dans une autre église. Ils peuvent rester quelques mois. Et après, ils s'en vont à une autre église. Est-ce que ça, c'est la... le désir du Seigneur pour les chrétiens? Non. Non. Nous allons voir que dans le Nouveau Testament, Paul parle des églises dans la scie, des différentes églises, et les frères qui appartiennent à chaque église. En tout cas, Et juste pour vous dire que c'est un privilège d'être partie du corps visible, de l'Église visible de Jésus-Christ. Pourquoi l'Église visible? Pourquoi j'ai dit être un privilège pour le moment d'être membre de l'Église visible de Jésus-Christ? Oui, bon, pourquoi visible? Est-ce qu'il y a une Église invisible? Oui? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'il existe une Église invisible? C'est ça, l'Église invisible, ce sont les croyants qui sont déjà partis avec le Seigneur. Ils sont partis de l'Église, depuis la Pentecôte, et tous les croyants qui sont décédés, qui ont parti, c'est l'Église invisible de Jésus-Christ, parce qu'on ne les voit pas ici. Mais on est encore parti, on est membre de l'Église visible de Jésus-Christ. Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, pour moi, le terme comme tel, c'est l'Église invisible donne l'idée de croyants qui sont partis avec le Seigneur. On ne les voit plus, ils ne sont pas sur terre, ils sont encore en attendant la résurrection du corps physique. Ils sont devant le Seigneur, mais leur esprit, leurs âmes. Mais parce que l'Église locale, c'est pour ça qu'on parle de l'Église locale, disons de l'Église d'un des plus beaux pays du monde, El Salvador, qu'on a visité avec ma femme, sont visibles là-bas. Sauf qu'on ne les connaît pas. Non, c'est sûr qu'on ne les voit pas, parce qu'ils sont même dans une autre partie du continent, mais ils sont visibles dans leur Église locale. Alors l'Église visible, ça montre, donne l'idée de tous les croyants vivants encore sur terre, et l'Église invisible, tous les croyants qui sont partis avec le Seigneur. Mais ce n'est pas non plus un péché, mon frère. Si on pense qu'ils sont invisibles parce qu'ils ne sont pas avec nous, je ne crois pas. Et en tout cas, la définition que je trouve, c'est comme ça. Et nous sommes pour l'instant les corps visibles de Christ. Ceux qui nous sont précédés, c'est l'Église invisible de l'agneau. Alors, c'est ça. Et nous sommes partis, alors tous. Nous sommes encore dans le corps physique. Alors, je vois tellement clair chacun de vous, vos visages, parfois sérieux, parfois souriants, mais vous êtes là. Et c'est gloire à Dieu pour ça. Vous êtes encore là pour servir le Seigneur. Et on est là tous. Supposément pour servir le Seigneur. Alors, nous allons voir un petit peu l'origine du mot Église. Je pense aussi que vous avez déjà une idée que le mot c'est Ecclesia, que le mot grec désigne l'Église de Christ, mais en vérité, le mot Ecclesia du grec donne l'idée d'un groupe, n'importe quelle sorte de groupe. Mettons, quand le porte-parole du roi, ou le gouverneur d'une ville voulait donner une annonce, il appelait une ecclésia, une réunion, tout simplement. Alors, le porte-parole du roi venait, puis il lisait un édit du roi, non? L'édit du roi qui voulait donner, par exemple, je vais monter les taxes à partir du mois prochain, et il voulait que tout le village sage, ou toute la ville sage, alors il convoquait une ecclésia, une réunion, un groupe, qu'ils viennent pour qu'ils écoutent, qu'ils se mettent ensemble pour qu'ils écoutent l'annonce que le roi voulait qu'ils sachent. Alors c'est tout simplement ça. Alors comment est-ce que le mot est changé et puis est devenu à être un mot, un nom, disons, appliqué directement à l'Église? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Alors pourquoi, si le mot dans l'aspect général désigne seulement un groupe de personnes, un groupe de personnes convoquées pour une raison particulière, alors comment est-ce que le terme est devenu appliqué, même de nos jours, même au jour de l'Église primitive, les premiers chrétiens ont commencé à appeler les groupes de chrétiens l'Église, l'Ecclésia? Est-ce que vous avez une idée? Il y a quelqu'un qui a une idée. Possiblement, je ne dis pas que c'est comme ça. Possiblement, le mot vient de... Il y a une version de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, qui s'appelle la version de 70. Ça veut dire la version de 70, la version de 70. Comment est-ce que cette version de la Bible a été conçue? Quand Alexandre le Grand a conquis la Palestine, Israël, toute la partie où habite Israël, Alexandre a une bénédiction qui était pour le peuple conquis par Alexandre. C'était que Alexandre était une personne vraiment intellectuelle. Et il donnait beaucoup, beaucoup d'importance à la littérature de chaque peuple où il allait pour lire. Il y avait une grande bibliothèque. Et là, qu'est-ce qu'il faisait quand il est arrivé et a conquis Israël? Il se trouve que les Israélites parlaient l'hébreu ou l'araméen, alors qu'ils ne comprenaient pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi 70 écrivains juifs pour qu'ils fassent la traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu au grec. Alors, comme ça... Et il y a un mot particulier qu'ils ont donné quand ils ont arrivé à penser comment ils allaient décrire le rassemblement du peuple juif pour fêter Dieu, pour louer Dieu. Comment est-ce qu'ils allaient appeler ce mot-là, le traduire au grec? Alors ils ont donné le mot « to kuriakon ». Ce sont des mots de dimanche. « To kuriakon ». Que ça veut dire l'assemblée, mais spécifiquement qui se réunissait pour louer Dieu. Alors, c'est la même idée. C'est la même idée, une assemblée, mais avec le but précis de louer Dieu. C'est-à-dire, on se met, donne l'idée plutôt de, on vient ici, mais pour fêter, pour faire réaliser un acte religieux. Vous comprenez? Alors, on pense que l'Église primitive a pris le concept d'ecclésia, d'église, iglesia, de ce mot-là, tokuriakon. Alors, on pense, je répète, qu'à ce moment-là, on a commencé à utiliser, les anciens, les premiers chrétiens, le mot iglesia, église, pour dessiner tous les chrétiens, tous les convertis, qui se sont mis pour, ou se mettaient ensemble pour louer Dieu. Et on croit que c'est comme ça que le mot, de plus en plus, a été utilisé juste pour dessiner les chrétiens. Vous savez, l'impact, nous savons tous l'impact que l'Église a fait dans l'Empire romain. Comment est-ce que l'Empire romain a été secoué, si on veut le dire, par l'influence de l'Église. De telle façon que l'empereur a pris les chrétiens comme un danger pour l'Empire romain. Parce que la foi des premiers chrétiens, ben, dans l'histoire, même dans l'histoire séculière, on voit que Néron, il mettait dans le cirque les chrétiens pour les tuer. Parce qu'il les considérait faussement un danger pour l'Empire romain. Alors c'est comme ça que pour faire la synthèse du terme, le mot « iglesia » Église est devenue particulièrement pour dessiner les chrétiens qui se mettaient ensemble pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour célébrer le culte à chaque dimanche. Parce que c'est à chaque dimanche que l'Église primitive se mettait ensemble pour louer le Seigneur. Alors c'est ça. Et vous avez une question, un doute ou quelque chose à dire? Sinon, je prends que tout est clair comme minuit. D'accord. J'espère que non, j'espère que c'est clair. Alors, c'est ça. Acte 19, j'ai oublié de lire ce texte-là, nous donne l'idée d'ecclésia avant, dans le terme général, dans sa façon générale, comme quand le roi voulait donner une information au peuple, acte 19, 39, si quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît, à haute voix. Acte 19, 39. Oui. Voilà. C'est un exemple de comment est-ce que le terme ecclésia était utilisé d'une façon générale dans l'Église, les premiers chrétiens. Alors l'Église, dans l'histoire aussi, je veux que nous voyions un petit peu comment est-ce que l'Église s'était conçue dans la tête de Dieu. Parce que l'Église, ce n'est pas par hasard. Hein? Ce n'est pas que Dieu, au fur et à mesure que les choses s'est passées, il a rangé chaque chose. Dieu a tout préparé d'avant la fondation du monde. Même chacun de nous était dans son plan pour devenir chrétien. C'est un autre thème, mais c'est ce qu'on appelle la grâce irrésistible de Dieu. Parce que Dieu avait dans son plan que Nicole Bernier, à un moment précis de l'histoire, dans un jour spécifique, par une raison spécifique, allait accepter Jésus-Christ. Et ainsi chacun de nous. Alors ce n'est pas par hasard que les choses passent. Dieu a tout préparé, sans manipuler les choses, parce que parfois on a tendance à penser qu'alors Dieu manipule les choses. Non. Comment c'est fait? Ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais Dieu a tout préparé d'avance, avant la fondation du monde. Alors, l'Église, ce n'est pas un par hasard. Ce n'est pas un hasard que Dieu... il y a beaucoup de personnes qui acceptent Jésus-Christ, alors je vais voir comment est-ce que je forme un petit groupe. Non, c'était déjà tout préparé. Et comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu avait déjà préparé toutes ces choses-là? Et si nous voyons l'Ancien Testament, justement, et je veux que nous voyons certains passages, parce que le Seigneur... Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Sont ici. Quand on n'est pas trop jeune, on a besoin de certains auxiliaires. Alors, dans la pensée de Dieu, Éphésiens 12, 14, excusez-moi. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloigné, vous avez été rapproché par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. De quoi est en train de parler Paul quand il parle que des deux, il n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. De quoi? Est-ce que vous avez une idée de quoi est-ce que Paul est en train de parler? Oui, il parle du salut, d'une certaine façon. Mais si vous avez fait attention au texte, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, à qui parle Paul, aux Éphésiens, à une église qui n'est pas d'origine juive, racialement parlant, privée du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse. Quelle promesse? La promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël. Sans espérance, ils étaient païens. Ils ne louaient pas, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, le Dieu vivant. Et sans Dieu dans le monde, le dit clairement Paul, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. En qui? En Jésus-Christ. Par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui est des deux, qui a fait des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Est-ce que les Juifs voyaient comme ses grands amis les non-croyants? Pas du tout. Impurs. Hein? Tu ne peux pas me toucher à ce point-là, parce que je suis pur, je suis le peuple de Dieu, et toi tu es un païen. Alors il y avait une inimitié entre les juifs et les non-juifs. Les juifs, d'une façon erronée, mais ils croyaient que Dieu les avait pris parce qu'ils étaient beaux, ils étaient bons, et les autres étaient méchants et impurs. Alors on est, d'une certaine façon, on est supérieur à vous. Hein, parce qu'on est le peuple choisi de Dieu. Et vous, vous n'êtes pas choisi de Dieu. Alors même quand il devenait prosélyte, même à ça, il y avait des limites pour ceux qui se convertissaient au judaïsme. Ils ne prenaient la place exactement comme un juif de race. Hein, si, il y avait dans le temple, il y avait la partie pour les prosélytes, pour les païens qui se convertissaient au judaïsme. Les hommes non juifs qui se convertissaient au judaïsme, qui reconnaissaient Dieu, le Dieu éternel comme leur Dieu, n'étaient pas avec les hommes juifs pour louer le Seigneur dans le temple. Non, les hommes juifs, les femmes juives et les convertis non juifs en arrière. Alors toujours comme des personnes de deuxième catégorie. Mais en Jésus-Christ, dit Paul, dans Éphésiens 2, car il est notre paix. Qui est notre paix? Jésus-Christ. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, c'est-à-dire le peuple, selon les promesses, le peuple d'Israël, et disons-le comme ça, le peuple non-juif. Il n'en a fait qu'un. Il n'a pas fait de différence. Le même prix a payé Jésus-Christ pour un juif que pour un non-juif. Pour un haïtien que pour un argentin. Pour un africain que pour un européen. C'est le même prix. Pour un homme que pour une femme. Il n'y a pas de différence. Nous avons en Jésus-Christ la même valeur, la même position, les mêmes privilèges. Alors, il n'y a pas question de faire des différences. C'est ça que Paul est en train de dire et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Alors maintenant, un juif doit voir un non-juif comme son frère. Pas juste comme son ami. Il va plus loin, comme son frère. Alors voyez-vous comment le Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice, a fait tellement de choses que parfois nous ne valorisons pas. Mais que, et même et Paul, après, il va plus loin en disant la circoncision de la chair n'est rien devant Dieu, mais la circoncision du cœur. Et les vrais juifs, dit, sont ceux qui le sont spirituellement et non selon la chair. En disant, c'est une personne, soit juif, soit non juif, qui devient membre du corps de Christ, pas parce qu'il est circoncis dans la chair, dans l'aspect extérieur, mais parce que dans son cœur, il a été circoncis par le pouvoir, par le sang de l'agneau de Dieu. Alors, très intéressant. Et Zacharie, dans l'Ancien Testament, le prophète Zacharie dit, dans le chapitre 8, verset 22, « Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. » Alors déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu donne des prophéties qui se rapportent au peuple qui allait accepter Jésus-Christ comme son sauveur, comme leur sauveur et Seigneur. Alors, l'Église universelle préfigurée dans l'Ancien Testament, par quoi? Premièrement, par la fête des prémices. Dans l'Ancien Testament, vous allez penser, qu'est-ce que Maurice est en train de dire de l'Église par rapport à l'Ancien Testament? C'est comme je vous disais avant, Dieu a tout préparé. Et les choses de l'Ancien Testament, toutes les prophéties, toutes les fêtes, pointent à une seule chose, ou à deux choses si vous voulez, à Jésus-Christ, l'incarnation de Jésus-Christ, et les résultats de son sacrifice. L'agneau de la Pâque pointé à Jésus-Christ. Est-ce que vous saviez que quand originalement le peuple, pour la Pâque, spécifiquement pour la Pâque, chaque famille devait choisir un agneau et le gardait dans sa maison et observait minutieusement cet agneau. Et au terme de, je ne me souviens pas si c'était de 13 jours, il devait aller et le sacrifier pour ses péchés, la famille. Il devait observer que l'agneau n'a pas de comportement étrange. C'est-à-dire qu'il souffre d'une maladie quelconque. Observer s'il comment je pourrais dire, se conduit comme un animal normal. Il s'était choisi. Pourquoi? Ça, c'est une préfigure ou une figure du ministère public de Jésus-Christ. Jésus-Christ était sous la vue de tout le monde pour voir comment est-ce qu'on voyait un défaut, une faute, qu'il fasse une faute pour lui accuser et puis le tuer avec raison. C'est ça, l'agneau pascal des familles, c'est une figure de Jésus-Christ, son ministère sur la terre, parce qu'il était parfait, sans défaut. C'est comme ça que l'agneau devait être sacrifié, un agneau sans défaut, qui n'a pas un comportement bizarre. Alors, le peuple, avec le temps, ne le faisait pas. Et c'est pour ça que aussi le Seigneur vient leur dire qu'il vient offrir. Le Seigneur dit, vous, si vous venez à donner à un prince d'Israël un animal, vous allez choisir le meilleur. Mais à Dieu, n'importe comment. Vous choisissez quelque chose. En faisant, ne pas obéir Dieu dans ce précepte-là, il prenait quelque chose, n'importe quel animal, et puis il venait l'offrir. Et Jésus-Christ reproche au peuple ça aussi, venait l'offrir devant Dieu. Il avait cessé d'observer ces prérequis que Dieu donnait pour l'agneau pascal. Alors, très important, ce sont des détails de l'Ancien Testament qui pointaient Jésus-Christ. La fête des prémices, nous allons voir en Lévitique 23:15. La fête des prémices, Lévitique 23:15, s'appelait aussi la fête des semaines. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Okay, c'est quoi la fête des semaines? Selon l'Ancien Testament, il fallait, après la Pâque, après le sabbat, parce que dans la Pâque, il y avait le sabbat. Le lendemain du sabbat, le peuple devait compter 7 semaines. Okay, ceux qui sont bons pour les mathématiques, 7 fois 7, 49. Le lendemain du sabbat, 50. On fêtait la Pentecôte, qui s'est reliée à la fête de la récolte. Au début, imaginez-vous comment le Seigneur, est-ce que moi quand je lis ça, quand je vois la figure, comment est-ce que Dieu a illustré le Seigneur Jésus-Christ et l'Église dans l'Ancien Testament, par les fêtes qu'il fêtait, le peuple d'Israël, par les prophéties. Je suis vraiment étonné de voir la sagesse de notre Dieu et comment est-ce qu'il nous préparait le peuple pour révéler son Fils. Mais le peuple n'a pas compris. Regardez, alors le lendemain du sabbat, ça s'accomplissait 50, que c'est la Pentecôte, c'est pour ça que Pente, ça veut dire 50, non? Alors, à ce moment-là, mais pendant le sabbat, le sacerdote, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Le principal, le souverain, merci beaucoup. Le souverain sacrificateur, on lui apportait du fruit, les premiers fruits de la récolte, puis il la présentait à Dieu comme une offrande agréable à Dieu. Et il dit, elle est une offrande qu'il prenait dans ses mains et il faisait un mouvement comme ça. Il y a un nom spécifique, ça ne me vient pas à la tête maintenant, ça me vient en espagnol. Ofrenda mecida. Vous savez, le hamac? Ou le canton, on se met sur un hamac Qu'est-ce qu'on fait? En espagnol, on dit hein? Balance, oui. Peut-être, j'oublie le mot spécifique, je ne veux pas donner des mots. C'est ça. Alors, mais le, c'est ça que faisait le souverain sacrificateur. C'était la récolte. Mais ça, on pourrait peut-être une autre fois voir, sinon le temps ne va pas nous souffrir. On est déjà. OK. Devant, OK. Offrande. Offert un vague, je ne sais pas. En espagnol, on dit offrande mesida, devant l'Éternel. Mais en tout cas, il le prenait, il le présentait comme ça, à Dieu. Et ça représente Jésus-Christ comme une offrande agréable à Dieu, parce que sa vie a été agréable à Dieu, une vie parfaite. Mais le lendemain, on venait présenter tous les fruits de la récolte, les nouveaux fruits, les premiers fruits de la récolte. Alors, dans la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, il s'est apparu comme une figure de langue de feu. Le Saint-Esprit est venu, puis il a scellé, il est venu pour la première fois à faire sa demeure dans les croyants. C'est la Pentecôte. Alors, les premiers, c'est pour ça qu'on appelle aussi les prémices. C'est quoi une prémisse? Le premier fruit de la récolte dans ce cas-là. Alors, les premiers chrétiens, c'était combien? Un nombre de combien? À peu près, là? Vous vous souvenez combien que dit la Bible? Ceux qui attendaient la promesse, mais vous recevrez une puissance, acte 1, 8, le Saint-Esprit, pardon? Non. 3000 ont accepté le Seigneur avec la prédication de Paul. C'était à peu près 120 personnes hein, dans la chambre haute. Ils attendaient et c'était à peu près de nombre de 120 personnes qui ont reçu pour la première fois. Pour la toute première fois, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce sont les prémices. Les prémices de la vie chrétienne. Les premiers qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'avant, le Saint-Esprit, il faisait son œuvre dans la vie d'un croyant, mais il partait. Quand la personne péchait, il partait. C'est pour ça que David, quand il a péché, il demande à Dieu, n'enlève pas de moi ton Saint-Esprit. Parce que quand un croyant dans l'Ancien Testament péchait, le Saint-Esprit le laissait, parce que le péché faisait une division, une séparation du croyant et Dieu. Parce que toutes les personnes dans l'Ancien Testament, toutes les personnes, les saints dans l'histoire, croyants en Dieu, tous, sans exception, ont été touchés par le Saint-Esprit. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, personne ne peut être sauvé. Personne ne pourrait avoir la foi en Dieu. C'est juste par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, comme j'explique, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait, touchait une personne, le prophète par exemple, il prophétisait par l'influence, étant contrôlé par le Saint-Esprit, et c'est comme ça. Mais dans la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pour faire sa demeure de toujours dans le croyant, pour toujours, il ne nous délaisse pas. Il est là, il est attristé quand on pêche, mais le Saint-Esprit il est toujours là. C'est pour ça que Paul nous exhorte, ne soyez pas remplis de vin, c'est la débauche, mais soyez plutôt remplis de l'esprit. Et il ne parle plus, parce que l'esprit va vous laisser si vous péchez. Non, il parle d'attrister le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'a pas le contrôle de ma vie, parce que je donne priorité au plaisir mondain. Vous comprenez? Alors, le Saint-Esprit ne peut pas contrôler la vie d'un chrétien qui persiste à être dans le péché. Mais il est là, attristé, il est là. Il ne va pas le laisser. Et c'est ça qu'on voit dans tout le Nouveau Testament. Partout dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous voyons l'Esprit contrôlant la vie d'un chrétien. L'Esprit attristé dans la vie d'un chrétien. Mais jamais il laisse la vie d'un chrétien. Alors, c'est ça, la fête des prémices, la fête de la récolte, illustre les premiers chrétiens. Les premiers, les 120 à peu près, Parce que la Bible ne dit pas 120 exactement. C'était des à peu près, dit la Bible. Peut-être c'était plus, peut-être un petit peu moins, mais disons 120. Ils ont reçu pour la première fois. Et c'est comme ça que l'Église de Jésus-Christ a commencé. Alors, ils sont les prémices. Les premiers, la première offrande de la récolte dans laquelle nous sommes maintenant. Vous êtes partis de la récolte maintenant, mais nous sommes postérieurs à ce groupe-là. Alors, ces groupes-là sont les prémices, les premiers, la première offrande offerte à Dieu par comme effet du sacrifice parfait de Jésus-Christ dans la vie des croyants. Alors, c'est très intéressant de voir ça. Et là, la fête de Pentecôte, excusez-moi, mais la bouche sèche. La fête de la Pentecôte, Exode 34, 22. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, c'est la gerbe que je vous dis qui était une offrande agitée. C'est ça qu'on appelait. L'offrande que le souverain sacrificateur faisait comme ça, c'était une offrande agitée à l'Éternel. Alors c'est depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Alors la fête de Pentecôte, comme je viens de vous expliquer, c'était ça. C'est la Pentecôte, le lendemain du sabbat, et c'était qui ont présenté les premiers fruits devant Dieu comme une offrande, et c'est qui représente les premiers chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit et qui inaugure, si vous voulez, Dieu, l'Église, de cette façon historique comme ça. Alors, qui forme l'Église? Ceux qui acceptent le Seigneur Jésus. Joël 2, 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Et Romains 10, 13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Paul reprend les mots de Joël, du prophète Joël, et lui vient répéter à l'église chrétienne, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'il dit un juif, est-ce qu'il dit un non-juif? Non, quiconque. N'importe qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans l'ordre de Dieu, les Juifs en premier. Pourquoi les Juifs en premier? Romains 1, 16. C'est pour, en passant, c'est le texte thème de notre Église. Hein? Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Hein? Du juif, premièrement, et puis du grec. Pourquoi du juif, premièrement? Voilà. Parce que c'est à ce peuple-là que Dieu a voulu, pas parce qu'il était beau, pas parce qu'il était plus intelligent, et pire encore, Dieu dit, je vous ai choisi parce que je suis souverain. Pas parce que vous êtes intelligent ou meilleur que les autres peuples. Dieu lui dit, par l'entremise des prophètes, il vient éclairer ça devant le peuple parce qu'il se prenait d'une façon erronée pour un peuple spécial. Dieu dit, non, ce n'est pas, c'est juste parce que moi j'ai choisi. Mais vous êtes têtu. Vous êtes rebelle. Au contraire, vous n'êtes pas intelligent. Et il les compare aux bêtes. Hein? L'âne connaît la maison de son maître, mais vous ne m'avez pas connu. C'est dur, ça. Et Dieu parle comme ça au peuple d'Israël. Alors, qui forme l'Église? Juif et non-juif. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est celui qui sera sauvé. Alors, dans l'ordre de Dieu, comme je disais, les Juifs premiers, parce que c'est à eux que les promesses originalement ont été données. Et après, dans la tête de Dieu étaient toujours les autres nations, Et vous voyez surtout dans les psaumes, beaucoup, que les nations viendront se prosterner devant l'Éternel et ils viendront chercher et louer l'Éternel. Il y a beaucoup de versets. Alors, Acte 2, 5 et 37 dit, « Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Quand il dit « impieux de toutes les nations », parle des Juifs qui étaient répandus parmi les autres nations de l'Asie mineure, dans l'Asie en général. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Alors c'est clair qu'ici, ils parlent des Juifs. Ce sont les premiers, ce sont les 3000 qui se sont convertis, qui étaient là pour fêter la Pâque et qui se sont convertis avec la prédication de Pierre, et c'était à peu près 3000 personnes. Alors, les non-juifs, Éphésiens 3:6, ce mystère, pour l'appel, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Voilà. Et Paul encore, je répète, l'appelle ce mystère. Ce que les païens, à quelle heure qu'on finisse? À 10h15. Hein? Bon, on a le temps encore pour résumer, en tout cas. Alors, ce mystère, le mystère des deux peuples, comme je vous ai dit, que en Jésus-Christ, Dieu a rompu cette barrière, cette mur qui séparait les Juifs, se croyant supérieurs aux autres peuples. Et vous vous souvenez quand Jésus-Christ a expiré sur la croix, dans le sanctuaire, le lieu, entre le lieu saint et le lieu très saint, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. Et comment s'est déchiré? De haut en bas. Et pourquoi la Bible est spécifique? Est-ce que vous avez déjà pensé? Pourquoi la Bible est tellement spécifique qu'elle dit et le voile s'est déchiré du haut en bas? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi l'importance? Pourquoi pas d'en bas en haut? Pardon? Voilà. Parce que c'est Dieu qui atteint l'homme. L'homme ne peut pas atteindre Dieu. Alors, c'est même dans ce sens-là, il y a un symbole. Le voile, parce que si le voile se déchire d'en bas vers le haut, ça veut dire que l'homme a la capacité d'atteindre Dieu. Comme la religion traditionnelle et la plupart des religions enseignent, il faut faire de bonnes œuvres pour agréer Dieu et avoir le salut. Mais Dieu fait faire le contraire. Hein? Dieu qui nous a sauvés parce que par la grâce, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, pas par les œuvres, pour que personne ne se glorifie. Hein? Mais on est sauvés pour de bonnes œuvres. Alors l'Église de Dieu est sauvée pour de bonnes œuvres, c'est-à-dire le contraire. On est sauvés pour faire de bonnes œuvres. Et ne pas faire de bons offres pour être sauvé. C'est le contraire, la mentalité de Dieu. Alors, c'est ça. Imaginez-vous, si c'était par les offres, le ciel serait peuplé par une multitude de vantards. Hein? Et Joël, comment est-ce que tu as été sauvé? Moi, je jouais très bien le saxophone, je jouais très bien les contrebasses. Et moi, je joue aucun instrument. Alors, comment j'allais me sentir au ciel? Waouh! Et toi, Mauricio? Je suis là, mais bon, de temps en temps, je faisais le déjeuner pour ma femme. De temps en temps, je faisais des bons œufs que ma femme aimait, des bons œufs. Alors, voyez-vous, non, c'est pas comme ça. Pardon? Ah, je chantais à ma femme aussi. Ah, ça, c'était pas bon. C'était pas un bon ordre, il va me dire le Seigneur. En tout cas, c'est le contraire. Et l'Église est formée de toutes les nations. Psaume 72, 11 et Esaïe 63. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. L'Église locale est une partie de l'Église universelle. Voyez-vous? On est l'église locale, mais en même temps, on est une partie de l'église universelle. Non? Êtes-vous d'accord? Oui, on est L'église locale, mais en même temps, on est une partie de l'église universelle. Et je veux qu'on touche sur l'église locale, les membres de l'église locale. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que membre de l'église locale? Première chose, on doit se sanctifier par l'enseignement et l'obéissance à la parole de Dieu. Nous, en tant que membres de l'église locale, on doit se sanctifier, on doit obéir la parole de Dieu. Pour quelle raison qu'on est là? Parce que je n'avais pas d'autres choses à faire? Je ne pense pas qu'on pense comme ça. Si un croyant pense comme ça, il faudrait lui exhorter et parler à nouveau pour voir s'il comprend l'évangile comme il faut. Non, on est là parce que Dieu nous attire. Parce que l'amour de Dieu et parce que le Saint-Esprit nous donne ce sentiment, ce désir de venir louer le Seigneur comme l'église locale faisant partie de l'église universelle. Alors la première chose qu'on cherche, les membres de l'église locale, c'est à nous sanctifier. C'est le désir de Dieu pour nous. Que nous soyons saints. Pourquoi? Parce qu'il est saint. C'est ça le désir de Dieu. Et ce n'est pas, en plus, ce n'est pas juste un désir de Dieu. C'est un ordre. Alors, si vous ne cherchez pas à vous sanctifier, vous êtes en désobéissance à Dieu. Je m'excuse de vous annoncer la mauvaise nouvelle ce matin, mais si vous ne cherchez pas à vous sanctifier, vous êtes en désobéissance à Dieu. Oui, voilà. C'est sérieux, hein, la sanctification. Alors, et qui sont, les croyants sont élus selon la préscience de Dieu, le Père. C'est ça que dit 1 Pierre 1-2, 1 Thessaloniciens 4-7 et Jean 17-17. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Car Dieu ne nous a appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Sanctifiez-les par ta vérité, ta parole et la vérité, dit Jean 17-17. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit faire comme membre de l'église locale? Chercher la sanctification. Par la prédication de la parole ici, par l'enseignement de la parole, comme maintenant, et par la communion les uns les autres. La première chose, très importante, un membre de l'église locale cherche à se sanctifier par l'enseignement et l'obéissance de la parole. Un membre de l'église locale, c'est ici, dans l'église locale, qu'il découvre ses dons spirituels. C'est dans l'église locale qu'il découvre ses dons spirituels. Une question, savez-vous c'est quoi votre don? Est-ce que, si vous ne saviez pas, et récemment vous avez entendu que chaque croyant a au moins un don de l'esprit pour servir dans l'église, et si vous l'avez découvert maintenant, est-ce que vous êtes disposé maintenant à le mettre en pratique? Parce que les dons ne sont pas pour dire, j'ai les dons tels, un don tel, j'ai 3 dons, j'ai 4 dons, au moins un. C'est ça que dit la parole, ce n'est pas moi qui le dis. Chaque croyant a au moins un don pour le mettre en service, en pratique, pour le service, pour l'édification du corps de Christ. Voilà une autre responsabilité de l'Église. Tu voulais dire quelque chose, André? Une autre responsabilité, si vous voulez, d'un membre de l'Église locale. La première, je veux que vous vous souveniez, le prochain cours, on va passer un test pour voir si vous vous souvenez des points qu'on voit ce matin. Première chose, c'est quoi? La sanctification. Les membres de l'église locale cherchent en premier la sanctification par l'enseignement et l'obéissance de la parole. Deuxièmement, il vient et il découvre ses dons dans l'église locale pour les mettre en pratique dans l'église locale. C'est normal pendant un certain temps qu'on ne sache pas c'est quoi mon don. Mais avec, disons, un chrétien de 30 ans, ben, c'est son droit. S'il a été négligent, je ne sais pas moi, je n'ai pas d'autorité pour venir lui dire « waouh ». Mais il devrait savoir au moins qu'il a un don. C'est quoi le don de l'esprit? Vous me regardez comme si je suis un extraterrestre. Vous pouvez lire Romains 12. Et vous allez voir que là sont décrits au moins 7 dons dans ce passage-là. Et puis il y a d'autres passages qui parlent des dons. Et disons, pour dire un don, le pastorat, c'est un don. L'enseignement, c'est un don. Le don d'évangélisme, le service, c'est un don. Ici, je vois qu'il y a des... Je ne sais pas s'ils sont conscients, mais je vois plusieurs sœurs et hommes qui ont le don de service. Mais peut-être qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas réfléchi comme quoi, ah, c'est mon don. Mais ils le mettent en pratique comme, spontanément, sans peut-être réfléchir. Mais je vois qu'il y a plusieurs ici dans cette église, grâce à Dieu, qui ont le don de service. Et ils le font toujours avec joie. Vous ne le voyez jamais comme moi. Je dois le faire. Je dois le faire. Non, ils font. Ah, voilà, une bonne preuve. Mais en tout cas. Ils découvrent leur don. Et 1 Timothée 4, 14 dit, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Dieu nous dit, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Il vous a donné au moins un don à chacun de vous. « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Romains 12, 6 à 8 dit, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère par du pastorat s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. » Alors, si vous ne saviez pas, il y a un don, il y a des croyants qui ont le don d'exhortation, qui vient vous dire très tranquillement, et vous ne sentez même pas qu'il est en train de vous exhorter. Mon frère, t'es vraiment charnel. Vous sentez comme s'il est en train de vous... Parce qu'il y a le don d'exhortation. Mais l'effet, le résultat, c'est un bon résultat. Et c'est ça la chose. Que vous ne sentez même pas, parce que si je viens vous exhorter, mon frère, préparez-vous. Mais si c'est quelqu'un qui a le don de l'exhortation, vous allez sentir comme du baume dans une plaie. Comme si... Et vous allez voir que le résultat, c'est... Oui, vraiment, j'étais désobéissant dans tel aspect, ou je n'ai pas bien fait dans telle chose. Parce qu'ils ont le don de l'exhortation. Et le Saint-Esprit, par le don de ce frère-là, ou de cette soeur-là, il me parle pour que je puisse corriger mes fautes. C'est comme ça. Et on contribue les uns les autres. Et 1 Pierre 2, 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison. Je me suis devancé. Je parlais des dons. Et maintenant, le prochain point, c'est qu'un membre de l'église locale cherche l'édification de ses membres, cherche l'édification pour soi-même, mais pour l'édification pour ses frères et sœurs. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 11 dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et 1 Pierre 2, 5, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la première? Sanctification par l'enseignement de la parole. Deuxième, découvrir le don. Troisième, l'édification. L'édification de soi-même et l'édification, chercher l'édification pour ses frères dans l'église. Alors, accomplir... Alors, ça c'est par rapport à nous particulièrement, les membres de l'église locale. On est tous membres... Comment est-ce qu'on est membre de l'église locale? Ben, il y a certains aspects de l'administration des églises, que ça, ce n'est pas mon coup à moi, que Jonathan, qui va partager ça avec nous. Mais on est membre de l'église universelle du moment qu'on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur. Dit la Bible que le Saint-Esprit vient nous sceller et il vient nous régénérer parce que l'image de Dieu est distorsionnée par le péché. Mais avec le Saint-Esprit, se fait une régénération dans notre être. Et là, on est scellé comme propriété de Dieu. Et là, on devient membre de l'Église universelle de Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on devient membre de l'Église locale? Bon, c'est une question d'administration parfois particulière de certaines églises. Je ne sais pas s'il y a des églises qui, pour le fait de venir assidûment, mettons, une année, vous êtes membre automatiquement. Il y a des églises qui pratiquent des choses pareilles. Mais notre église, non. Notre église, il faut que vous veniez assidûment à l'église, c'est sûr. Puis après un certain temps, ben, peut-être les anciens vont vous approcher et dire, est-ce que vous voulez devenir membre? Là, il y a un cours que ça donne. Et parce qu'on croit que c'est nécessaire que le monde soit conscient des privilèges et responsabilités quand il devient membre d'une église. Et alors, ce sont des choses particulières peut-être de chaque église. Mais on est membre de l'Église universelle du moment qu'on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Alors, c'est comme ça. Les membres de l'Église locale pratiquent l'amour et l'entraide aussi. Pratiquent l'amour et l'entraide. Si je viens ici, je vois un frère, une soeur qui est dans le besoin, et j'ai la possibilité de faire quelque chose pour lui, c'est un péché si je ne le fais pas. Comme Paul dit, à quoi ça sert à un frère si vous venez et vous voyez qu'il n'a pas à manger et vous avez 100 piastres, après que vous avez tout payé vos obligations à la maison, vous avez 100 dollars dans la poche et vous venez et vous voyez que la soeur ou le frère est dans le besoin et parce qu'il n'est pas venu au comptoir, dit en passant, alors il n'a pas quoi manger. C'est pas la propagande. Et là, vous avez 100 dollars et vous... Alors, je vais prier pour toi que le Seigneur te pourvoie, mon frère. Et très spirituellement, je prie pour lui. Et j'ai 100 dollars et je ne suis même pas capable de sortir 20 dollars de lui donner pour qu'il achète au moins du pain et des œufs pour manger. Alors, c'est un péché. Pratique l'amour et l'entraide. Et ils témoignent de leur foi aussi. Acte 2, 8, 25. Pardon? J'ai pas écouté. Bon, témoigne de leur foi, acte 8, 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Alors, une autre obligation des membres de l'église locale, c'est qu'ils pratiquent l'amour et l'entraide. Et une cinquième. Témoignent de leur foi. Nous devons témoigner de notre foi. Et maintenant, vite, parce qu'on est arrivé à la fin, mais la responsabilité de l'église locale. C'est quoi? Alors, comment ça? J'ai, comme membre de l'église locale, j'ai des responsabilités, des privilèges, mais c'est quoi la responsabilité de l'église locale? Parce qu'en tant qu'individu, je suis membre de l'église locale. Mais une fois qu'on se met ensemble, on est l'église locale. Vous comprenez? Alors l'église locale a un comité des administrateurs qui s'appelle ancien pasteur dans notre église. Ils ont une certaine responsabilité envers l'église locale. Et nous formons partie de ce tout qui est l'église locale. Alors en tant qu'église locale, en tant que groupe, quand je suis à l'extérieur par exemple, je suis membre de l'église baptiste de Rosemont. Et je veux m'identifier comme ça. Quand ils me demandent, est-ce que tu visites une église? Je dis oui, je suis membre de l'église baptiste évangélique de Rosemont. Je m'identifie comme ça. Mais en même temps, je suis membre de l'église locale, comme le tout. Quand on est ici maintenant, on est l'église locale. Comprenez? Alors c'est individuel et en même temps c'est collectif. L'église locale doit prêcher, doit enseigner sur l'unité et l'harmonie en tant que membre de l'église locale. L'église locale doit surveiller pour l'édification, la bonne édification des membres de l'église locale, accomplir l'œuvre sociale ici. C'est une responsabilité de l'église locale. d'une autre façon dite, l'Église locale est dirigée par certaines personnes que nous venons et nous votons pour que, ou nous sommes d'accord pour que ce groupe-là, pour dire Richard, Ronald et les autres anciens pasteurs, Isaac, tous les anciens pasteurs, nous les avons là parce que nous sommes d'accord qu'ils soient là, dirigés par le Saint-Esprit, je crois. Parce qu'on prie pour que le Seigneur dirige ce groupe d'hommes-là pour bien diriger l'Église. Premièrement, et comme priorité dans l'aspect spirituel. Deuxièmement, dans l'aspect administratif. Financièrement, organisationnellement. Alors, ce sont des aspects qui sont importants aussi de l'Église locale, et c'est ça la responsabilité en tant qu'Église locale. Pourquoi ? Juste pour eux, pas juste pour eux, mais pour toute l'Église locale, parce que c'est nous qui avons voté pour les élire, qui avons prié pour les élire, supposément. Parce que c'est nous, pour prendre les décisions, en tant qu'Assemblée, les décisions importantes de l'Église, c'est nous, ce n'est pas eux qui les prennent toutes seules. Alors, voyez-vous, il y a une responsabilité en tant que communauté, en tant qu'Église locale. Et on va laisser là, parce que le temps s'est passé. Seulement que je veux que vous partiez avec l'idée, qu'est-ce que je fais en tant que membre de l'Église locale? Est-ce que je joue bien mon rôle comme membre de l'Église locale? Ou est-ce que je m'en fous, je ne veux rien savoir de ce que je fais en tant que membre de l'Église locale? Que nous soyons appelés à réfléchir et à mieux ou améliorer notre rôle pour être le chaînon qui attache la chaîne qui devient forte dans l'unité, dans la communion, pour la gloire de notre Dieu.